Bachar a hérité en fait du système créé par son père, Hafez el-Assad. Donc vous avez quand même un système, lorsqu'il prend le pouvoir en 2000, qui a déjà 30 ans d'existence, qui est parfaitement rodé, qui s'appuie certes sur la communauté alaouite, parce qu'elle est dans les forces de sécurité, elle noyaute l'armée, Mais Hafez el-Assad sait dépasser sa communauté pour intégrer dans ce qu'on appelle une asabiya, c'est-à-dire un groupe de solidarité, d'autres représentants des grandes communautés syriennes. Il sait également jouer sur les divisions au sein de la société syrienne, divisions territoriales entre Alep et Damas, au sein de la communauté sunnite, entre les riches, les pauvres, les villes, les campagnes, etc. Donc on a un système dont la colonne vertébrale est effectivement la communauté alaouite, mais qui joue aussi sur la division de la communauté majoritaire et de l'intégration des autres minorités par peur justement de la majorité.
Est-ce qu'il y a une unité du clan alaouite? Est-ce que Bachar el-Assad c'est une autorité incontestée? Ou il y a quand même des méfiances, des critiques d'une frange qui pourrait être encore plus dure?
Cette communauté étant minoritaire, elle comprend le danger de se diviser elle-même. Et elle s'accorde sur la primauté de Bachar el-Assad. Si au début de son règne, il était contesté, on ne le prenait pas tellement au sérieux. Après l'assassinat de Hariri et le retrait forcé de l'armée syrienne du Liban, là, il était en très mauvaise posture et il y avait des généraux alaouites qui commençaient à le critiquer. Il y en a même un, d'ailleurs, qu'on a retrouvé suicidé dans son bureau, Razi Kanaan. Ensuite, il faut avouer qu'il a réussi quand même à s'imposer.
Alors comment est-ce qu'on s'assure justement du soutien des sunnites et aussi des minorités, alors là, des Kurdes comme des chrétiens, etc.
Tout simplement, à partir de son arrivée au pouvoir, il a vraiment libéralisé l'économie syrienne. Bon, son père avait commencé timidement en 1991 à libéraliser l'économie, mais lui, vraiment, il a donné un coup d'accélérateur. Et vous avez donc la bourgeoisie entrepreneuriale qui a énormément profité l'autorisation de travailler pour les banques privées, de la suppression du contrôle d'échange, enfin de tout un tas de mesures bureaucratiques qui piégeaient l'économie. Et donc ces gens-là le soutiennent parce qu'en plus le régime assurait la paix sociale par sa répression.
Qu'est-ce qui explique aujourd'hui que des sunnites qui auraient de l'argent, donc une certaine indépendance, ne s'émancipent pas du pouvoir de Bachar el-Assad ?
Elle a besoin de lui pour travailler, parce que si vous n'êtes pas avec lui, vous serez bloqué dans vos affaires. On peut toujours trouver un article de loi pour vous confisquer vos biens ou mettre sous séquestre votre entreprise, ce qui est arrivé à certains hommes d'affaires qui avaient voulu jouer un rôle politique. Et puis ensuite, ils sont conscients qu'il faut un régime fort. Regardez ce qui se passe en Égypte aujourd'hui. L'économie égyptienne est vraiment plongée dans le marasme du fait de la révolution, de la montée de l'insécurité, etc. Donc la bourgeoisie sunnite, elle, préfère Bachar el-Assad à la situation anarchique.
Et dans le cas des minorités, est-ce qu'il y a d'autres raisons?
Les minorités n'ont pas envie de subir une guerre civile qui amènerait à leur départ ou à leur exécution, puisque notamment les chrétiens ont l'exemple des chrétiens irakiens qui ont dû partir, qui sont passés par la Syrie d'ailleurs en grand nombre, ce qui fait jurisprudence. Donc ils préfèrent ce régime qui les protège face à la peur réelle ou supposée de l'intégrisme islamique.
Malgré tout, on assiste quand même à un certain effondrement de l'économie syrienne depuis un an, et puis il y a aussi ces sanctions de la communauté internationale. Est-ce que ça pourrait avoir raison du front pro-Bachar el-Assad?
Certes, vous avez un embargo de la part des pays du Golfe, de l'Europe, mais enfin, la Syrie continue à commercer normalement avec le Liban, avec l'Irak, même avec la Jordanie, avec la Russie, l'Iran, etc., la Chine. Donc les sanctions ont moins de portée. Et puis la Syrie, c'est un pays qui s'est bâti sur l'autosuffisance, l'autosuffisance alimentaire, l'autosuffisance énergétique. Donc certes, vous avez une chute de l'investissement, une chute du tourisme international, etc. Mais enfin, les gens mangent toujours à leur faim. Vous avez certes des pénuries de gaz, d'électricité, parce que vous avez des attentats, des sabotages sur les oléoducs, sur les centrales thermiques, etc. Mais la situation n'est pas si dramatique qu'on veut le présenter.